18h15, l'actualité des industries culturelles et du numérique, mais aussi de l'influence française, du soft power. Première séquence, premier segment de cette émission ce soir. À 46 ans, la Française Esther Duflo a donc reçu cette semaine avec son mari Abhijit Banerjee au MIT comme elle et Michael Kremer de Harvard le prix d'économie de la Banque de Suède. Autrement dit, celui qu'on considère et qu'on appelle le Nobel d'économie. D'ailleurs, Esther Duflo est la plus jeune lauréate ainsi primée de toute l'histoire de ce prix Nobel. Constituée d'économistes réputés, cette équipe américaine est d'abord récompensée pour sa méthode, sa méthodologie, une méthode développée dans leur laboratoire appelé le GPAL au MIT. Loin d'une économie théorique, mathématique ou statistique qui était ultra majoritaire jusqu'à récemment dans les politiques de développement, leur méthode est basée sur une expérimentation finie d'une certaine manière, les modèles et les modélisations mathématiques complexes placent au terrain. Quels sont les moyens les plus effectifs pour lutter contre la pauvreté? Comment les mesurer? Les politiques de développement telles que le microcrédit en Inde, le tutoring dans les écoles en Afrique, la lutte contre la corruption en Amérique latine, est-ce que ça marche? Duflo, Banerjee et Kremer ont proposé une méthode par échantillonnage aléatoire dite RCT. RCT qui rappelle celle de la médecine ou des essais cliniques pharmaceutiques avec notamment des placebos. Alors comment ça se passe? Certains villages se voient proposer un programme, d'autres non. Au bout de quelques années, les chercheurs observent les résultats. C'est ce RCT qui leur a valu le prix Nobel. Esther Duflo a expliqué chez nos confrères de France 2 cette méthode. Elle était l'invitée du journal de 13h d'Élise Lucet au moment de sa leçon inaugurale au Collège de France. C'était le 13 janvier 2009, une archive INA.
Ma démarche est avant tout une démarche d'évaluation, c'est-à-dire c'est d'essayer de travailler avec les acteurs de terrain, qui peuvent être des ONG, qui peuvent être des gouvernements, qui peuvent être des firmes privées, qui essayent de faire des choses concrètement sur le terrain dans les pays en développement. Et d'essayer de travailler avec eux pour évaluer l'efficacité de leurs idées et de leurs programmes. Voilà, on va sur le terrain, on accompagne l'équipe qui met en place le projet sur le terrain. Par exemple, si vous voulez savoir qu'est-ce qui est plus efficace pour que les enfants apprennent mieux à l'école. Est-ce que c'est plus efficace de vous concentrer sur le soutien scolaire ou est-ce que, comme c'est très à la mode dans beaucoup de pays en développement, est-ce qu'il faudrait mettre des ordinateurs dans les écoles? Alors, pour savoir ce qu'il faut faire, ou savoir ce qu'on peut faire, ce qui coûte le plus cher, ce qui aide le mieux les enfants. On peut comparer, mettre du soutien scolaire dans certaines écoles, des ordinateurs dans d'autres écoles, voir les résultats des enfants à la fin, et voir si ça fait une différence, et quel projet est le plus efficace d'une part, et le plus efficace par rapport à ses coûts d'autre part.
Alors ça, vous l'avez fait concrètement en Inde, cette étude-là très particulière, cette évaluation-là, et... Les ordinateurs, voilà. C'est pas forcément la panacée.
Alors, nous avons eu l'opportunité de le faire en Inde parce que, justement, les ordinateurs sont très à la mode en Inde. Et dans une ville de l'Inde, la mairie avait décidé de distribuer des ordinateurs dans toutes les écoles. Mais ces ordinateurs restaient dans leur boîte sans être utilisés. Donc, ce que nous avons fait, c'est en travaillant avec une ONG, d'enlever les ordinateurs des boîtes dans la moitié des écoles et dans d'autres écoles, d'envoyer simplement une jeune femme pour faire du soutien scolaire. Et ce qu'on se rend compte, c'est que c'est vrai que les ordinateurs aident les enfants. En particulier, on avait mis dans les ordinateurs des logiciels de maths. Ouais. C'est vrai que ça aide les enfants, mais c'est beaucoup, beaucoup, beaucoup plus cher. Donc finalement, par rapport à une jeune femme qui se concentre sur aider les enfants en difficulté, un ordinateur, ça marche pas tellement mieux et c'est presque 10 fois plus cher. Donc finalement, se concentrer sur les enfants en difficulté, c'est une stratégie plus efficace aujourd'hui.
Voilà, Esther Duflo au micro de France 2, le journal d'Élise Lucet. L'aide au développement a été transformée en profondeur grâce à ces méthodes expérimentales très nouvelles et validées sur le terrain. Et c'est d'abord donc pour cette méthode d'évaluation objective que l'équipe a reçu ce prix Nobel. Il faut ajouter à cela une grande empathie pour les populations locales, au contact desquelles les chercheurs, qui se font du coup un peu ethnologues ou même anthropologues, à l'occasion évolue. Les livres d'Esther Duflo sont publiés au Seuil dans la collection La République des idées. Je recommande en particulier les deux tomes de La politique de l'autonomie, publié au Seuil, ou encore Repenser la pauvreté, également publié au Seuil. Justin Weiss, vous êtes directeur général du Forum de Paris sur la paix, diplomate. Vous avez longtemps vécu aux États-Unis, comme Esther Duflo, qui a d'ailleurs pris, je crois, la nationalité américaine depuis 2012. Peut-être une réaction à ce prix Nobel, Justin Weiss?
Oui, ce qui est intéressant, c'est qu'elle fait partie de cette pléiade de stars françaises qui sont aux États-Unis et qui ont eu un impact assez important sur soit la politique américaine, soit la politique globale, hein, Olivier Blanchard au FMI
MIT
notamment,
avant, ouais.
Soit la politique de développement, mais aussi directement, on le voit en ce moment aux primaires, l'impact de Saez et Zucman sur les candidats à la primaire démocrate, hein, sur Bernie Sanders, sur Elizabeth Warren, de façon plus indirecte. Et donc il y a toute une pléiade comme ça de d'économistes français de renom dont on peut s'enorgueillir. Alors, évidemment, on peut se demander aussi de
la fuite des cerveaux.
L'envers de la chose, c'est la fuite des cerveaux. En même temps, je pense qu'il y a une circulation qui est très grande. Je pense qu'on a aussi des réussites françaises et européennes autour de l'économie de Paris, de l'école d'économie de Paris, autour de Bruegel, autour de Jean Pisani-Ferry et d'autres, et dont on voit
Thomas Piketty,
exactement, qui circule en fait. Hein, circule
en même temps, Esther Duflo, c'est lycée Henri IV, elle a reçu 4e à Normalsup, elle fait un DEA à l'EHESS, agrégation d'économie, mais pouf, elle fait son doctorat au MIT, sous la direction d'ailleurs d'Abhijit Banerjee, qui va devenir par la suite son mari, avec lequel elle partage le Nobel, donc c'est brain drain, comme on dit en anglais, la fuite des cerveaux.
Il en reste pas moins qu'il y a, oui, des conditions aux États-Unis et notamment autour de Boston, au MIT, à Harvard et ailleurs, des conditions qui sont offertes aux chercheurs qui sont difficiles à égaler et qui font qu'ils y sont, qu'ils y restent. On a, je sais pas, une jeune Française, par exemple, Stéphanie Stancheva, est maintenant professeure d'économie à Harvard à 32 ou 33 ans. Donc ça continue. Évidemment, ce qu'il faut, c'est pouvoir les réattirer au Collège de France, à l'École d'économie de Paris, etc.
Ce qui est le cas pour Esther Duflo, puisqu'elle a une chaire partielle certaines années. Je ne sais pas le statut exact qu'elle a, mais elle est au Collège de France, Zoé Saez.
Pour poser la question autrement, est-ce que si elle était restée en France, Esther Duflo aurait pu être prix Nobel d'économie, vous pensez ?
C'est difficile à dire. Je pense que dans les conditions de sa jeunesse, avant qu'il y ait, alors oui, à Toulouse, maintenant à Paris, il y a une certaine infrastructure. En même temps, son choix de rester à Boston a été aussi un choix personnel. Et donc,
oui, elle s'est mariée. Voilà. Puis il y a aussi une question de budget de recherche.
Il y a une question de budget. Oui. Est-ce que c'est ça la question ? Est-ce que son projet et sa recherche sur les développements auraient été aussi efficaces ? Et donc, est-ce qu'elle aurait pu ? C'est plus une question rhétorique. Je ne vous occupe pas.
En même temps, Jean Tirole a eu le prix Nobel d'économie.
Mais tout à fait, c'est vrai.
Donc,
je ne suis pas sûr que c'est une question rhétorique.
Philippe Delmas.
Ce que disait Jean Vess à l'instant est important. Quand elle est partie, il n'y avait pas d'institution en France qui pouvait offrir quoi que ce soit d'équivalent, ouais. Ne fût-ce que comme cadre intellectuel et même matériel. La création, moi j'ai un assez vif souvenir de ça, j'étais à Toulouse à l'époque, de l'école d'économie de Toulouse, plus de celle de Paris. Ont été accueillis avec un peu d'ironie, notamment par les universitaires. N'empêche qu'on est arrivé à créer des institutions dont la logique de fonctionnement, de sélection, de financement est anglo-saxonne et ça marche assez bien.
Et sur ça, Justin Weiss, vous pensez qu'on peut aller de l'avant dans cette direction-là, ou est-ce que c'est finalement la vie normale d'un chercheur international que d'être, de voyager?
D'abord, je pense que ce voyage-là est indispensable. La question, c'est de savoir si en effet tout se fait de l'autre côté de l'Atlantique, ou si on arrive notamment dans un cadre européen. Et je pense aussi que c'est ça une des voies d'avenir qu'il faudra essayer de pousser, que ce soit autour de think tanks comme Bruegel ou d'autres, travailler entre Européens sur l'économie et avoir des moyens de recherche qui soient équivalents ou comparables en tout cas à ceux qu'on offre aux États-Unis.
La FIAC se tenait au Grand Palais à Paris jusqu'à ce soir, la Foire internationale d'art contemporain, dont l'édition 2019, la 46e du nom, a été marquée par des inquiétudes sur son futur pendant notamment les longs travaux prévus au Grand Palais dans les années à venir. Alors la directrice de la FIAC, Jennifer Flay, s'est voulue rassurante ce matin lors d'un point presse où nous étions. La FIAC aura bien lieu au Grand Palais en 2020, en dur, hein, pas sous une tente. Nous voilà pour une part rassurés. Ce qui frappe lorsqu'on visite la FIAC, notamment cette semaine, c'est l'incroyable diversité des galeries. 199 étaient présentes cette année. Diversité géographique, diversité de l'art proposé, diversité surtout des artistes, hein, par leur âge, leur sexe, leur rapport à l'art. Tous ceux qui répètent à longueur de colonne, et d'ailleurs de micro également, que l'art contemporain est nul, je les cite, devraient juste venir visiter la FIAC ou ses espaces hors les murs et même off ou dissident. Dire que l'art contemporain est nul, c'est en fait être un peu borné, fermé, ne pas expérimenter, refuser de prendre des risques et juste s'interdire d'aller voir et de voyager. Bien sûr, nombre d'œuvres présentées à la FIAC nous ennuient et parfois elles nous révoltent, mais d'autres splendides ou complexes, machines désirantes ou tout simplement belles œuvres et installations récentes nous émeuvent. Et je pense notamment aux installations d'un artiste allemand d'origine polonaise, Alicia Kwade, au tableau de Katharina Gross, au Land Art de l'américain Michael Heiser ou encore à Grayson Perry, coqueluche transgenre venue tout droit de Londres. Là, je cite Le Figaro. Si même Le Figaro nous le dit, c'est que l'art contemporain va mieux. Alors, on peut débattre de la présence française qui aurait diminué à mesure que l'internationalisation de la FIAC s'est opérée et du fait d'ailleurs du prix exorbitant des stands. Pourtant, les galeries françaises représentent 28% des galeries sélectionnées, soit presque un tiers du nombre total. Et pour avoir une confirmation de la vitalité de l'art contemporain, y compris français, rien de tel qu'une visite pas loin d'ailleurs de la FIAC au Palais de Tokyo, où on peut retrouver en ce moment de jeunes artistes passionnants comme Lily Reino Dewar, Mali Haroun, Jean-Luc Blanc, Maurice Blossild ou encore Adrien Vescovi, parmi beaucoup d'autres. Évidemment, une critique de l'art contemporain est toujours possible, ainsi qu'une critique de la FIAC elle-même, Zoé Sfez, tant à l'égard de ce type de manifestation en général que de la barrière qu'elle érige entre, disons, le in et le off, hein, c'est-à-dire les artistes plus jeunes et moins connus qui, eux, ne peuvent pas toujours et pas facilement être exposés à la FIAC.
Oui, parce qu'effectivement, entre un marché qui de l'art qui ne cesse d'osciller entre crise et remontée spectaculaire à peu près depuis 2008, les critiques plus du marché que de l'art contemporain, et notamment du système des grosses foires, ont été assez acerbes, particulièrement en France. Donc sur la place accordée aux galeries françaises, vous l'avez dit, c'est 28% des galeristes de la FIAC qui sont français, mais ils étaient 31 l'année dernière, ils étaient encore plus l'édition d'avant, et ça reste un problème. Et par ailleurs, on recevait l'année dernière, la semaine dernière, on l'a entendu, la graveuse critique d'art Aude de Kéros. Alors elle, c'est une farouche, disons, adversaire de l'art contemporain plus que du marché, mais elle est rejointe depuis peu par des acteurs qui font eux-mêmes partie du champ. Hein. Je rappelle la galeriste Nathalie Obadia, qui était l'invitée d'Emmanuel Laurentin la semaine dernière, qui est présente à la FIAC, mais qui est vigilante sur son propre marché. Et puis il faut dire que cette année, juste avant l'ouverture de la Grande Foire, il y a une enquête du site documentation.art qui dénonçait les pratiques de l'Association pour la diffusion internationale de l'art français, c'est l'ADIAF, qui remet notamment le prix Marcel Duchamp, hein, ce prix Marcel Duchamp qui est remis à l'occasion de la FIAC et qui a été attribué cette année à Éric Baudelaire. Voilà, donc pas mal de soubresauts et de cris d'alarme du côté des professionnels de l'art français. 11 foires off cette année, c'est quasiment un record en parallèle de la FIAC, avec notamment Galeriste, qui était une espèce de foire qui avait décidé de se tenir en novembre pour ne pas justement pâtir de la concurrence de la foire, qui a fini par se rendre à l'évidence et par se recaler sur le timing de la FIAC. Et puis d'autres FIAC qui en finalement de plus en plus attirent de plus en plus de monde, notamment parce que on y voit un art qui échappe encore un peu pour le moment au marché. C'était le cas de l'Outsider Art Fair, c'est sa 7e édition à Paris, qui se tenait à l'atelier Richelieu, donc toujours à peu près dans le même quartier, avec un directeur qui lui-même est un Américain, qui a repris la foire américaine de New York, dédiée donc à ce qu'on appelle l'Outsider Art Fair. Qu'est-ce que c'est? C'est l'art dit brut, l'art outsider, l'art du tatouage. On a retrouvé de très très belles œuvres de Marcel Storr. Marcel Storr, c'est ce peintre complètement inconnu qui avait fait une très belle exposition. On avait une très belle exposition au Carré Baudouin. Aloïse Gonsalves, grande peintre de l'art brut américain. On est sur vraisemblablement une augmentation des ventes pour ce type de foire de 25% par rapport à l'année dernière. Ça dit une appétence pour cet art qui est tout à fait différent, qui se tient hors de la conversation artistique qu'on peut avoir dans les grandes foires, me disait donc son directeur, aussi parce que les prix sont bien moins importants. Ça va de 700 euros à 80 000 euros grand maximum dans ce type de foire. Voilà, donc essor de ces foires off qui sont contraintes de toute façon d'exister en même temps que la FIAC, qui à la fois bénéficie de son aura et en souffre. Et on peut quand même peut-être dire un mot en cette dernière journée de la FIAC. On n'a pas encore les chiffres, hein, le bilan en termes de à la fois de chiffres de vente de la FIAC, ouais, et de fréquentation, qui a probablement été un petit peu empêché par la grève de la RATP. Mais un mot pour dire quand même qu'on regrette aujourd'hui la mort de l'artiste chinois Huang Yongping. Il est mort à 65 ans. Kamel Menour, son galeriste, l'évoquait largement dans sa masterclass avec Arnaud Delaporte qui a eu lieu ce week-end à la FSAC. C'était un des 10, disons, artistes contemporains chinois les plus importants. Il a commencé dans les années 80 à Pékin et puis il est arrivé à Paris où il habitait depuis 89, depuis Tiananmen en fait, pour cette fameuse exposition Les Magiciens de la Terre. Jean-Hubert Martin, c'est une exposition légendaire qui a permis de découvrir l'art contemporain chinois. C'était un homme relativement taiseux. Il a des installations à la fois très impressionnantes, très polysémiques, qui se prêtaient beaucoup à l'interprétation. Il y avait Arche, c'était en 2009 à la Chapelle des Beaux-Arts. Et puis il y a effectivement eu un Monumenta, c'était la 7e édition de Monumenta, c'était au Grand Palais, toujours à la FIAC, qui s'appelait Empire. Et on avait une espèce d'acier, de container en acier avec un squelette en serpent, qui était une réplique du bicorne de Napoléon. Donc c'était une espèce de conversation entre les totems de l'art français, de l'histoire française, de l'industrialisation de la Chine. Voilà un artiste qu'on regrettera beaucoup et donc que vous pourrez entendre évoqué par Kamel Menour dans une masterclass avec Arnaud Laporte à découvrir cet été sur notre antenne.
Et pour terminer sur l'art contemporain, ou d'ailleurs moins contemporain, ou plutôt futuriste, l'Immersive Art Festival. Et alors ça a lieu, Zoé Suez, à l'Atelier des Lumières à Paris.
Oui, c'est un événement qui est très court, qui n'aura duré qu'une semaine. Il a commencé mercredi prochain, il continue jusqu'à mercredi soir prochain. C'est tous les soirs de 19h à 23h dans l'Atelier des Lumières. Alors de quoi s'agit-il? C'est quand même quelque chose d'intéressant. Qu'est-ce que l'Atelier des Lumières? On vous en a parlé ici dans Soft Power. C'est ce lieu d'art rue Saint-Maur, dans une ancienne fonderie, très bel espace, qui a été lancé par Culture Espace. Culture Espace, vous savez, c'est une entreprise privée qui fait de la culture. Et en un an et demi, le site a dépassé à peu près toutes les attentes, d'ailleurs, de ses fondateurs et de ses investisseurs. Il a attiré plus de 2 millions de visiteurs dans des expositions dédiées à Klimt ou à Van Gogh. Klimt et Van Gogh, des œuvres qu'on pouvait découvrir en très très gros plan, sur tous les murs de cette ancienne fonderie, sur le plafond et sur le sol. Donc, gros succès qui dit l'appétence des Français, notamment des familles, pour ces technologies qui en fait s'affranchissent, qui vous permettent de s'affranchir du cadre de l'écran ou du tableau, puis qui vous permettent de faire une exposition de Van Gogh sans en avoir acheté un seul ou emprunté un seul. On a un énorme succès de tous ces dispositifs dits immersifs. Là à Lyon, la Sucrière propose une exposition avec un décor imaginé par Rudy Ricciotti autour de Picasso. Il y a eu cette grande exposition au Clos Lucet, Léonard de Vinci 3T. Donc on était toujours un petit peu sur le même système, c'est-à-dire redécouverte d'un patrimoine par ces technologies immersives. Et on pouvait clairement regretter qu'en fait, on ne se serve pas de ces lieux, des technologies délirantes et extrêmement chères hein, d'ailleurs, qui sont utilisées pour découvrir les artistes qui naissent en même temps que cette technologie émerge. Et c'est pour ça que c'est une très belle initiative que cette Immersive Art Festival. Donc c'est 11 collectifs français, irlandais mais aussi turcs qui présentent 11 films de 4 minutes qui sont, en fait c'est des films, c'est un show, qui sont diffusés en boucle toute la soirée sur l'intégralité des murs et des parois de cette immense fonderie. On appelle ça en fait du design, alors c'est un design sonore, univers immersif, c'est du digital design. Alors en fait on parle de sculpture numérique, c'est toujours un peu étrange d'essayer de définir un art par ses contraintes techniques et pas par ce qu'il propose. En fait on a très peu de lieux en France qui permettent aujourd'hui à des jeunes collectif de s'exprimer de ce point de vue-là versus le reste du monde. Au Japon, il y a le Mori Building Digital Art Museum qui a ouvert il y a un an et demi à Tokyo autour du collectif Team Lab. Team Lab qui avait exposé à la Villette, ça c'était au printemps dernier, ça avait été un succès public absolument énorme, 300 000 personnes grand maximum, beaucoup de lieux qui ouvrent au Mexique, en Corée du Sud, en Turquie, et la preuve, 3 collectifs parmi les 11 qui sont présentés à l'Immersive Art Festival sont turcs. Ce qui est intéressant, c'est de regarder le profil de ces collectifs. Ça en dit long sur la manière dont cette forme d'art en fait est très très peu structuré, puisqu'il s'agit essentiellement de studios qui travaillent pour la publicité, pour des marques. Et je rencontrais Romain Hill, qui est un jeune artiste et designer franco-américain qui était en lice, qui m'expliquait qu'il venait à peine d'acheter un studio et de candidater pour la première fois à des appels d'offres lancés par des musées français. Pourtant, en fait, des gens qui travaillent sur ces questions-là, vous en connaissez. Je note notamment Ryoji Ikeda, que vous connaissez sans doute, auquel le Centre Pompidou a dédié une grande exposition, qui était présent à la Biennale de Venise cette année, ou encore à l'exposition Artistes et Robots, qui était au Grand Palais il y a 2 ans, mais qui sont des expositions qui restent encore très rares. On peut regretter qu'à Paris, il n'y ait pas encore de lieux publics qui véritablement investissent cette forme d'art-là, par exemple la Gaîté Lyrique, mais qui se débat en ce moment dans des problèmes de gouvernance et aussi de budget, parce qu'il faut dire que c'est des technologies extrêmement chères recherche qui nécessite en fait le mécénat de grandes entreprises comme Panasonic ou Sony, mais en tout cas Culture Espace, donc cet opérateur privé qui était à l'origine d'Atelier des Lumières, a bien compris en l'occurrence que ça fonctionnait très bien et ils vont ouvrir dans les mois qui viennent la carrière de lumière, ce sera dans les Beaux-de-Provence et un autre espace à Bordeaux au printemps prochain. Voilà, donc les acteurs publics sont demandés à l'appel de cette nouvelle forme d'art que je vous invite vraiment à aller découvrir. C'est très court, c'est jusqu'à mercredi, c'est de 19h à 23h à l'Atelier des Lumières rue Saint-Maur à Paris.
La carrière des Beaux-de-Provence existe déjà, mais elle va peut-être se moderniser.
Non, voilà, la carrière de lumière aux Beaux-de-Provence. Voilà.
Et on va pouvoir avoir de nouvelles expositions qui étaient un peu datées. Alors maintenant, ça va pouvoir se moderniser. À suivre dans Soft Power, le forum de Paris sur la paix qui aura lieu en novembre. Et dans un instant, Philippe Delmas sur les technologies à la fois implacables et douces. Mais juste avant, et pour clore cette séquence d'actualité de la semaine, un mot sur les mémoires posthumes de Prince qui seront publiés mondialement le 31 octobre. Alors c'est un secret bien gardé que personne n'avait encore éventé en France et on vous le révèle ici, voilà, le titre du livre Beautiful Ones dans la lignée des mémoires de Keith Richards ou des chroniques de Bob Dylan. Cet ouvrage est appelé à faire date. Le New Yorker vient de consacrer en avant-première un long article titré The Book of Prince à cette autobiographie Prince, Beautiful Ones en librairie donc en France le 31 octobre. Et en attendant cette sortie mondiale, voici un inédit de Prince qui a lui été révélé également cette semaine, I Feel For You, en guitare acoustique magnifique, datant de 1979. Une démo qui confirme la dextérité de Prince comme guitariste solo et surtout son énergie un peu folle, délirante même, qui se révèle, écoutez, à partir de la troisième minute de ce morceau que nous allons laisser justement jusqu'à sa fin. Prince sur France Culture. Baby, when I lay with you, no one's gonna be here. My little screw, things that they do to me. I don't like it, baby. It's mainly a feeling when I get on you, baby. Maybe it's like Je crois qu'il aurait pu continuer comme ça un long moment, mais là, il a arrêté, je crois, le magnéto. Vous pouvez retrouver notre séquence Actualité des industries culturelles et du numérique dans son podcast dédié sur le site de France Culture, page Soft Power.